face à Toulouse dans la soirée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à l'écoute de RFI.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour chers auditeurs, nous vous conduirons aujourd'hui dans un petit village de l'ancienne Allemagne de l'Est avec quelques passages de l'ouvrage intitulé « La famille Rook ». L'autrice, Katia Schoenherr, avait 7 ans lors de la chute du mur. Aujourd'hui en Suisse et journaliste, elle écrit des textes autant journalistiques que littéraires. Un premier roman, Marthe et Arthur, a obtenu le prix 1000 pages en 2021 et l'a fait connaître au grand public. Pour présenter en quelques mots ce nouveau roman, nous emprunterons à Nicolas Julliard cette critique lapidaire. Il s'agit d'un petit théâtre où les choses se passent de façon subtile et miniature. Ce roman, La famille Rook, est une satire sociale, une succession de scènes, parfois drôles, parfois décapantes et acides. Trois personnages principaux, la mère, Inge, le fils, Karsten, et sa jeune fille, Lisa. Un propos. L'accident dont la mère âgée vient d'être victime oblige les trois personnages à passer tout un été ensemble dans le petit village natal et dans la même maison.
Bien qu'elle monte et descende l'escalier de sa maison plusieurs fois par jour depuis plus de 80 ans, bien qu'elle connaisse cet escalier par cœur, cette fois-ci, en descendant, Inge Rook a commencé à réfléchir au nombre de marches restantes. Encore 5 ou 6, s'est-elle demandé. Et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée. Inge doit rester 2 semaines au minimum à l'hôpital. Fracture du col du fémur. Inge n'avait jamais entendu dire que le fémur avait un col. D'ailleurs, elle n'a toujours pas compris ce qui est cassé exactement. Mais elle n'ose pas poser de questions à la doctoresse. Elle a des cas plus urgents que le mien à traiter, se dit-elle. Les jeunes femmes intelligentes comme ce médecin l'intimident. Ce qu'Inge a compris, en revanche, c'est qu'elle ne pourra peut-être plus marcher sans soutien. Elle s'imagine sans arrêt en train de pousser un déambulateur, de marcher le dos tordu et la tête penchée en avant, de faire une pause tous les 3 mètres et, épuisée, essoufflée, de regarder le contenu du panier métallique fixé sur le déambulateur. À cette pensée, Inge plisse les yeux et fait une grimace de dégoût. ce panier en fil métallique. Il ne sert qu'à exhiber la solitude des vieux. Quand Inge est en ville avec sa voisine Ulrich, elle observe parfois ce que les vieux y mettent pour leur apporter chez eux. Une tablette de chocolat, une boîte de lait concentré, un programme de télévision, une mandarine, deux, tout au plus. Inge détend lentement son visage, ouvre les yeux, considère le tableau qui lui fait face sur le mur peint en jaune clair de la chambre. La reproduction d'une peinture à l'huile avec des nénuphars. Inge a 84 ans. Inge essaie d'attraper le verre d'eau qui est posé sur sa table de nuit. Il est trop loin, elle ne l'atteint pas. Elle est immobile, son bras est suspendu à la perfusion. Et l'infirmière ne lui a pas encore apporté d'eau gazeuse. Et sa voisine de chambre continue à ronfler. Et cette nuit, les crapauds de l'étang vont encore pétarader sous sa fenêtre. Et Karsten ne se montre pas. Karsten ne se montre pas du tout. Il a dit au téléphone qu'il ne pouvait absolument pas abréger son déplacement professionnel. Il est à Bruxelles, une fois de plus. Il doit s'occuper de tout. Il doit toujours s'occuper de tout. De tout, sauf d'Inge. Quand elle demande quelque chose à Karsten, elle a l'impression de sonner à une porte en sachant qu'il y a quelqu'un, mais personne ne lui ouvre. Quant à Jens, le grand, elle ne l'a même pas appelé. Qui sait combien ça coûte d'appeler aux États-Unis avec le téléphone de l'hôpital? Et sans doute que là-bas, ce serait le milieu de la nuit. Est-ce qu'elle doit ajouter ou retirer 6 heures? Elle n'arrive pas à retenir ça. L'indifférence de Karsten n'a certes pas surpris Inge, mais ça l'a blessé. Karsten est fort pour blesser. Karsten est le petit, 2 ans de moins que Jens. Et secrètement, elle l'a toujours un peu préféré. Inge a beau avoir essayé d'écarter ce penchant, c'était comme ça depuis le début. Karsten réchauffait les parties vides en elle, que Jens n'atteignait jamais. Elle ne peut pas oublier la première fois où Karsten, devant le miroir, avait montré son ventre de son petit doigt boudiné en disant « Moi ». D'ailleurs, la précocité avec laquelle il avait clairement prononcé « Moi » aurait dû lui paraître comme un présage. Mais elle est restée aveugle face à l'égoïsme de Karsten, ne voyant que ses yeux rayonnant aux battements de cils particulièrement longs. D'une certaine manière, tout était plus agréable avec Karsten qu'avec Jens. Le nourrir, le baigner, l'envelopper dans une serviette, le serrer contre soi, lui caresser la nuque qui entrait parfaitement dans l'arrondi de sa paume. Le regard vif de Karsten faisait vraiment ressortir le caractère fermé, hostile et buté de Jens. Cela fait longtemps qu'elle n'attend plus rien de Jens. Mais de Karsten, par contre, si. C'est la faute de Karsten si elle est à l'hôpital, se dit Inge.
Karsten a menti. Il n'est pas en déplacement professionnel. Il est chez lui à Berlin et fait son jogging. Le soleil du soir brille tendrement. Tous les espaces verts sont parsemés de gens assoiffés de lumière qui, comme lui, ont passé la journée à leur bureau. La fumée du barbecue envahit le parc. Karsten ne trouve pas vraiment son rythme respiratoire aujourd'hui. Il doit s'arrêter, marcher quelques pas, il se touche le ventre. Un point de côté, ce ne lui arrive jamais. « Allez, c'est parti !» se dit-il en reprenant sa course. Son mensonge était un réflexe, le réflexe habituel. Dans les situations désagréables, il dit toujours qu'il est en déplacement professionnel à Bruxelles. « Je ne peux pas, malheureusement, je pars à Bruxelles demain. » Ou « Je suis à Bruxelles, il faut que je raccroche, un rendez-vous important. » En réalité, Karsten ne doit aller à Bruxelles qu'une ou deux fois par an. C'est vis-à-vis de son ex-femme, Sabine, que Karsten ment le plus souvent. Et aussi de sa fille, Lisa, de ses aventures amoureuses encombrantes, et bien sûr, de sa mère. Vis-à-vis de toutes les femmes qui ne se lassent jamais de disposer de lui, de le contraindre. À chaque nouvelle exigence, c'est ce que ressent Karsten, elles enroulent une nouvelle couche d'oppression autour de ses reins. Elles l'enserrent dans un lourd tissu noir. Courir lentement, avoir une respiration régulière, se dit Karsten. Ce point de côté ne doit surtout pas revenir. Il aurait dû lacer ses chaussures un peu moins serrées. Ce matin, après une réunion fatigante, sa mère l'a appelé. Karsten était assis à son bureau et buvait son café. Un café en capsule que Lisa, bien entendu, méprise plus que tout. Elle a même un t-shirt à l'effigie de George Clooney. Il tient une tasse d'expresso à la main et au-dessus est écrit « How are you ?». Karsten n'a jamais raconté à Lisa qu'il utilise au moins 4 de ses capsules par jour au bureau et qu'il compte bien continuer à le faire, en tout cas jusqu'à ce que la dictature verte rêvée par sa fille soit effectivement instaurée. « Je suis tombé dans l'escalier », a dit sa mère au téléphone. Karsten survolait parallèlement les emails d'une collègue. Il n'écoutait pas vraiment et a donc sous-estimé la gravité de la situation. « Ça peut arriver », a-t-il répondu, lapidaire. D'autant plus que lui aussi était tombé dans cet escalier. À l'âge de 5 ans, il avait fallu suturer sa blessure à la tête. Mais encore plus que la chute, il a gardé en mémoire la dispute qui s'était ensuivie entre ses parents. Karsten et son frère Jens étaient couchés et ils entendaient leur père reprocher à Inge de ne pas avoir fait attention. Elle pleurait qu'elle aimerait bien savoir comment surveiller les garçons si elle devait en même temps faire la cuisine, laver le linge, repasser, faire le ménage et les courses et lui apporter ses pantoufles qui traînaient partout. Sinon, ses parents ne se disputaient jamais. Inge ne pleurait, ne criait jamais. Certes, elle boudait souvent, mais son père ne réagissait pas parce qu'il ne s'en rendait pas compte. Une harmonie silencieuse régnait d'habitude dans leur ménage. Donc, la bruyante dispute qui avait explosé entre ses parents et qui était montée jusqu'à la chambre obscure de Karsten et de son frère était très, très inhabituelle. Jens avait murmuré. « Je me demande s'il se disputerait aussi si c'était moi qui étais tombé. » « Sans doute que non », avait froidement répondu Karsten. Il ne cessait de tâter le pansement collé derrière sa tête, au milieu de ses cheveux, et d'appuyer dessus. Une douleur sourde, sanglante. Le lendemain, Karsten avait eu l'idée de raconter à ses parents, ça lui était venu à l'esprit comme ça, que c'était Jens. Jens l'avait poussé. C'était à cause de lui qu'il avait dévalé l'escalier. Jens avait eu beau nier, ça cadrait bien avec ses accès de colère. Inge l'avait privé de sortie. Karsten était tombé dans l'escalier pendant les vacances d'hiver et à l'époque il y avait encore de la neige en hiver, beaucoup de neige, qui tenait plusieurs jours. Les vieux du village balayaient matin, midi et soir. Il fallait bien ça, disait-il. On ne devait pas se relâcher, sinon la neige gagnait. Il se sentait menacé par elle. Des montagnes blanches se formaient sur le bas-côté et les enfants les escaladaient. Le bassin de rétention des eaux gelait et les enfants faisaient du patin à glace dessus. Ils suçaient les stalactites pointues qui pendaient des toits. Ils se frictionnaient le visage. Ils se tiraient à tour de rôle avec la luge. Et ils construisaient des igloos. Construire l'igloo dans le jardin de façon que Jens le voit forcément depuis sa chambre, était l'idée de Karsten. La neige de cet hiver-là était meilleure que n'importe quel été. Quand Jens avait enfin été autorisé à sortir, le dégel avait commencé. Les restes de neige gisaient dans les coins comme des serpillères sales. Les corneilles pouvaient de nouveau lâcher leurs noix au-dessus de la Scheffelstrasse pour les faire céder sous les roues des voitures qui passaient. Karsten, lui, n'avait pas cédé. Il n'avait pas retiré sa fausse accusation. Et sa mère avait pu démontrer une fois de plus son intransigeance. Chez elle, les principes l'emportaient toujours sur le discernement. « Ça peut arriver, ne sois pas insolent », a dit Inge au téléphone. Elle était à l'hôpital, on allait l'opérer, une opération compliquée. On allait lui poser une nouvelle articulation de la hanche. il était prié de venir tout de suite. Le tissu noir se resserrait, commençait à empêcher Karsten de respirer. Il transpirait. « Je suis à Bruxelles », a-t-il dit. Il devait s'occuper de tout. Mais après, il lui rendrait visite, le plus vite possible. En disant cela, Karsten regardait fixement les stores à lamelles de la fenêtre de son bureau, puis l'indicateur d'humidité de la plante en hydroculture. Après le coup de téléphone, il est allé aux toilettes pour se passer de l'eau froide sur le visage. « Merde », a-t-il juré. Il jurait à voix basse. « Merde, merde, merde !» Il s'est coiffé les cheveux en arrière de ses mains mouillées, se lissant ainsi le front. Un regard désespéré dans le miroir. Oui, c'est nul qu'il lui ait menti. C'est nul qu'il n'ait pas déménagé son lit au rez-de-chaussée depuis longtemps et qu'elle doive toujours descendre cet escalier la nuit pour aller aux toilettes. C'est nul qu'il retarde le moment de lui rendre visite. Il sait très bien avec quelle impatience elle l'attend, le guette. Elle n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Et qu'est-ce qu'il fera si elle devient dépendante? Elle lui a déjà expliqué souvent qu'elle n'irait pas dans une maison de retraite. Depuis que son père est mort, sa mère lui donne constamment mauvaise conscience. Comme si le but de son existence ne consistait qu'à lui courir sur le haricot. À lui, Karsten. Ce n'est jamais assez. Il doit encore faire ci, et il doit encore faire ça, et encore ceci, vite, avant de repartir, et lui rapporter cela, et venir plus souvent, ou plutôt, idéalement, s'installer chez elle. Le point de côté est revenu. Karsten ralentit le rythme. Le type qui trotte derrière lui de manière insistante depuis un moment lui passe devant. Il porte un stupide bandeau. Karsten quitte le sentier et court vers un arbre, appuie ses mains contre le tronc, sent son écorce craquelée, cette peau rêche. Il laisse tomber sa tête en bas et halète. En mentant, Karsten a gagné du temps, rien de plus. Il va bien être obligé d'aller voir sa mère. Il va devoir sacrifier quelques-uns de ses précieux jours de congé. Chambre 601. Son cœur bat comme s'il allait passer un examen. Karsten prend une profonde inspiration et baisse la poignée. Il jette un regard prudent dans la chambre. En voyant Inge dans le premier lit, il hoche la tête comme pour se confirmer à lui-même qu'il a reconnu sa mère. Il entre, referme la porte et se dirige vers elle. « Bonjour, maman !» dit-il si fort que même la voisine l'entend, manifestement. Car elle interrompt son ronflement pour recommencer à vrombir juste après. Inge a tourné la tête en direction de Karsten et l'examine de la tête aux pieds. Son regard s'attarde sur ses chaussures. Elle va donc les critiquer, ou alors son pantalon retroussé. « Pas de fleurs ?» dit-elle. Elle trouve toujours quelque chose, se dit Karsten. Elle trouve toujours quelque chose.
Je vois que tu n'as pas changé, réplique-t-il. Tu pensais que j'allais rajeunir là-dedans?
Je n'ai pas acheté de fleurs pour que tu puisses te choisir toi-même un bouquet en bas, dans le magasin, pense à dire Karsten. À la vérité, il n'a pas songé un seul instant aux fleurs.
Inge appuie sur la télécommande pour redresser son lit. Elle tapote la couette et dépose ses mains de part et d'autre de sa hanche. Dans un coin de son corps que Karsten ne peut pas exactement localiser, il est soulagé de voir sa mère. Les phases qui précèdent sa rencontre avec elle sont souvent plus oppressantes pour lui que la rencontre elle-même. Absente, sa mère a quelque chose de démoniaque qui retombe dès qu'il la voit. Il est alors frappé par la petitesse et la fragilité de cette femme. Ce n'est qu'un être humain, un vieil être humain aux fines lèvres maculées d'une tache sombre. Inge a meilleure mine qu'il n'avait cru. Elle a certes maigri, ce qui fait paraître son visage encore plus ridé. Sa peau tend à former de nombreuses rides particulièrement petites. Elle est pâle aussi. Mais ses yeux clairs ont la vigilance habituelle, celle que Karsten lui connaît. Sans savoir les détails de son état, il interprète son regard ainsi. Sa mère va se remettre d'aplomb. Son corps a beau paraître fragile, il est coriace.
Les vacances scolaires ont enfin commencé. Une année de plus derrière elle. Son père va passer la prendre d'une minute à l'autre. En fait, Karsten devrait être là depuis longtemps, mais il est toujours en retard. Une heure, pour lui, c'est normal. Il n'envoie un message que s'il dépasse une heure. Lisa s'est rendue compte très tôt que dans les familles normales, ce sont les parents qui attendent les enfants. Chez Lisa, c'est le contraire. Elle est toujours prête avant ses parents. Alors, elle s'assied quelque part en tailleur et lit jusqu'au départ. C'est bien possible que son amour de la lecture ait germé parce qu'elle devait sans arrêt attendre sa mère ou son père, ou quand ils étaient encore ensemble, les deux. Ses affaires pour Munzich sont prêtes. Un petit sac à dos pour les vêtements et un casier rempli de livres attendent dans le couloir parce qu'elle n'a pas réussi à se décider. Ce que Lisa lit dépend toujours de son humeur. Et comment pourrait-elle savoir maintenant comment elle se sentira quand ils seront allés chercher sa grand-mère à l'hôpital et l'auront amenée à la maison? Enfin, ça sonne. Karsten dit dans l'interphone qu'elle doit se dépêcher de descendre, qu'ils sont en retard. « On n'est pas en retard !» réplique Lisa. « Tu es en retard !» Son père est garé sur le trottoir, de sorte que ni un fauteuil roulant ni une poussette n'auraient la place de passer. Il porte de nouvelles lunettes de soleil aux reflets bleus et sent l'aftershave qu'il utilise à l'excès depuis des années. C'est une odeur cheap, bien que, comme il l'objecte toujours à la critique de Lisa, la lotion soit tout sauf bon marché. Lisa dépose sa caisse de livres et son sac à dos dans le coffre. Il y a déjà la valise de Karsten et quelques chemises sur cintre venant du pressing, enveloppées dans un film plastique, comme s'il partait pour un déplacement professionnel. « Et où sont tes vêtements ?» demande Karsten en retirant ses lunettes de soleil pour montrer sa contrariété. « Dans le sac à dos, » répond Lisa. « Dans ce petit sac à dos ? Tu as l'intention d'emprunter des vêtements chics à mamie ou de t'habiller avec un de tes livres ? On reste 3 semaines. » « Quoi ? 3 semaines ? T'es dingue ?» Lisa s'attendait à quelques jours, pas à 3 semaines. Dans ce cas, elle aurait aussi bien pu partir avec sa mère et Tom. Furieuse, elle retire son sac à dos et la caisse de livres du coffre et retourne vers le porche. « Mais qu'est-ce que tu croyais ? Qu'on allait déposer mamie à la maison et repartir aussitôt ? Allez, viens, tu pourras laver tes fringues chez mamie. » Lisa cherche la clé du porche sans réagir. Alors son père l'attrape par les épaules, la retourne et la pousse en direction de la voiture. Lisa se dégage de sa poigne. « Lâche-moi » râle-t-elle. « Monte dans la voiture, on n'a pas de temps à perdre avec ces conneries. On est déjà en retard. T'as qu'à arriver à l'heure. » « T'es bien comme ta mère, marmonne Karsten à voix basse, mais assez fort pour que Lisa l'entende. » Il remet ses livres dans le coffre. Lisa en prend un dans la caisse, puis elle monte. Sur la banquette arrière. Elle n'a vraiment aucune envie d'être assise à côté de son père. Au moment où Karsten démarre le moteur, un bip se fait entendre. « Tu peux t'attacher, s'il te plaît ?» dit-il à Lisa. « Non, » répond-elle. « Sinon, ça va biper tout le temps. Je m'en fiche. Pas moi. Je ne vais pas laisser un logiciel automobile me dicter ce que je dois faire, et encore moins toi. » « Mais je rêve !» Ça continue à biper. Karsten ouvre sa portière et dit, encore assis, « Je me demande si on, au même instant, une cycliste arrive sur la piste cyclable qui passe juste à côté de la voiture. Elle heurte la portière ouverte et tombe sur le côté. La chaîne du vélo cliquette au moment de la chute. Lisa perçoit les minutes suivantes dans une dynamique cinématographique déformée, irrationnelle, où tout est à la fois étiré et accéléré. Elle descend et se précipite vers la cycliste. La rue est assez calme à cette heure-là. C'est une artère parallèle qui n'est pratiquement empruntée que par les riverains. La femme a la présence d'esprit de se relever et tire son vélo sur le côté. Elle quitte la chaussée pour gagner le trottoir. Lisa l'aide. « Tout va bien ?» demande-t-elle. « Je ne sais pas encore !» dit la cycliste en s'asseyant. Elle s'écrie dans la direction de Karsten. « Connard ! Tu peux pas faire attention ?» Karsten se tient à côté de sa voiture, blême, s'appuyant d'une main à la portière que la femme a heurtée. Lisa voit combien son père est choqué. Le soulagement qu'elle commence à ressentir, la femme peut au moins marcher et gueuler, ne semble pas l'avoir encore atteint. Heureusement, elle portait un casque. Heureusement, aucune voiture ne roulait dans la rue quand elle est tombée. Karsten sort de sa torpeur et se dirige vers la femme et Lisa. Quelques personnes se sont arrêtées pour aider si nécessaire, ou pour zioter, ou tourner une vidéo avec leur téléphone. Il y en a même qui filment en haut des fenêtres de leur appartement. La cycliste tâte ses jambes. Pendant ce temps-là, quelqu'un lui tend un mouchoir et un désinfectant. Lisa lui vaporise le désinfectant sur une petite blessure qu'elle a au bras. La femme appuie elle-même le mouchoir dessus et tamponne son sang. Elle inspire et expire méticuleusement. Se calmer. « J'ai pas regardé !» dit Karsten. « Je suis désolée !» La femme fait « Pfff !» et essaie de se relever lentement. Karsten et Lisa la soutiennent et elle y arrive. Elle reste un moment debout, regarde ses jambes, puis elle fait quelques pas prudents et ramasse son vélo. Il semble également intact. « On dirait que t'as eu de la chance, connard !» dit-elle à Karsten. Elle sort son téléphone de sa banane pour photographier la plaque d'immatriculation de Karsten. Elle veut aussi son numéro de téléphone et son adresse. Karsten, manifestement encore sonné, lui donne toutes ses coordonnées. Lisa doit dicter le numéro de téléphone de son père. D'habitude, quand il le donne à n'importe quelle nana potentiellement baisable, il le connaît. Et maintenant, il ne s'en souvient pas, se dit Lisa. « Je suis terriblement désolée », répète-t-il sans cesse. « Bah alors fais attention, connard! Pourquoi est-ce que tu te gares en plein milieu du trottoir, d'ailleurs? T'es pas seul au monde avec ta bagnole !» Au bout de quelques minutes, la femme remonte sur son vélo. Elle laisse d'abord ses pieds par terre, vérifie l'alignement du guidon, il est droit, agrippe plusieurs fois les poignets noirs et les relâche comme pour faire revenir le sang dans ses doigts. « Bon !» dit-elle en posant un pied sur la pédale. « Après un accident, il faut tout de suite remonter en selle. » Et elle démarre doucement. Lisa et Karsten regardent partir la cycliste. Karsten secoue la tête en passant la main dans ses cheveux. Une fois la femme sortie de leur champ de vision, ils jettent un coup d'œil sur la portière. Quelques égratignures sur le cuir du revêtement, c'est tout. « D'abord mamie, puis cette femme, » dit Lisa à son père. « Tu as du monde sur la conscience ? » « Ferme-la et monte. C'est à cause de tes conneries que c'est arrivé. » Lisa fait ce qu'il dit. « Il a même un peu raison, » pense-t-elle. « Merde. » Elle s'attache. Il est déjà midi moins le quart. Dans la voiture, Karsten soupire plusieurs fois. Il n'arrive pas encore à mettre le moteur en marche. Dans le cocon de sa voiture, il reprend peu à peu ses esprits. Il rechausse ses lunettes de soleil, sort son téléphone de sa poche et le tend à l'arrière. Appelle mamie à l'hôpital, s'il te plaît. Dis-lui qu'on est en retard. Fais-moi cette faveur, je ne peux pas pour l'instant.
Sortie, a dit la doctoresse ce matin, après avoir jeté un regard furtif sur son porte-bloc. La kinésithérapeute est venue la voir pour lui apporter un déambulateur. Inge a refusé, bien que la kiné ait dit qu'elle ne pourrait pas se passer de cette aide. « Vous allez vous compliquer la vie, Madame Rook. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. » Inge refusait toujours. La vue de cette armature la rebutait vraiment trop. La thérapeute, énervée, a sorti le déambulateur de la pièce. Elle lui a finalement apporté deux béquilles qu'elle appelait des cannes de marche et demandé à Inge de faire quelques pas avec, à titre d'exercice. Inge lui a fait cette faveur à marcher lentement, ici et là, et consenti à les emporter parce qu'elle craignait sinon de ne pas être autorisée à sortir. En plus, s'est-elle dit, les béquilles évoquent plutôt une blessure provisoire, tandis qu'un déambulateur paraît définitif. 10 heures ont sonné, 11 heures, 11h30. Inge était assis, tout habillé sur son lit, à l'affût, à espérer que Karsten allait se dépêcher au moins aujourd'hui, le jour de sa sortie. Il ne lui avait rendu que 2 visites pendant ces 2 semaines. Il avait tant à faire dans la maison, disait-il. Le réaménagement de la salle de bain ne coûtait pas seulement de l'argent, mais aussi des nerfs. Lilo, l'infirmière, est passée la voir à un moment donné. « On ne vient pas vous chercher ? » a-t-elle demandé. « Si, mon fils et ma petite-fille devraient arriver d'une minute à l'autre. » « Ah, alors c'est bien. » Peu après, le téléphone relié à son lit a sonné. Inge ne savait pas si elle pouvait encore décrocher. Officiellement, elle était déjà sortie de l'hôpital. Le téléphone s'est tu. À côté du téléphone, ses cannes étaient appuyées à la table de chevet. Elle n'avait rien à faire et donnait en même temps l'impression d'être toujours prête. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, Inge s'est fait violence pour décrocher. « Allô ? » ?»«
Bonjour, mamie. C'est moi. » Ta petite fille préférée.
Lisa ? Qu'est-ce que vous faites ? Je suis là à faire le poireau.
On se dépêche, mamie. Mais on va arriver un peu en retard.
Vous êtes où ?
On est en route. Repose-toi encore un peu jusqu'à ce qu'on arrive, d'accord ?
Pourquoi est-ce qu'il vous faut tellement de temps ?
Papa aussi t'embrasse.
Ton père n'a pas le cran de me le dire lui-même.
Exactement. Tu le connais. Allez, à tout de suite. Salut.
L'écouteur à la main, Inge tremblait. On ne peut pas compter sur lui. Pas moyen de compter sur Karsten. Ça ne l'intéresse pas le moins du monde de savoir ce que j'ai traversé, se dit-elle, en lâchant le combiné qui est tombé et s'est arrêté peu avant le sol, pendouillant au cordon spiralé gris sale, comme un de ces sauteurs à l'élastique qu'elle a vu récemment à la télévision. Lilo est revenu vers midi. Elle n'a pas commenté l'écouteur pendouillant, elle l'a simplement pris, reposé sur le téléphone. Elle a également ramassé les cannes. Lilo a dit qu'elle avait bientôt fini son service. Auparavant, elle devait refaire le lit et préparer la chambre pour le prochain patient. Peut-être voudriez-vous attendre à la cantine ? Lilo a accompagné Inge en bas et porté son sac. Inge s'entraînait à manier les béquilles et s'est rendu compte au bout de quelques pas que cette façon de marcher lui coûtait beaucoup de force dans les bras. Inge est assise dans la cantine, les béquilles appuyées sur la table, toujours prêtes. On s'affaire autour d'elle. bruit de couverts et odeurs comme dans toutes les cantines. Un plateau après l'autre est poussé vers la caisse sur le rail métallique. Inge regarde le salon de coiffure qui est en face, de l'autre côté du hall de l'hôpital. Elle décide de demander s'il n'y aurait pas un créneau libre pour elle. Elle se lève avec précaution, s'agrippe à la poignée de ses béquilles et va en face. Elle a de la chance. La coiffeuse a le temps. Shampoing, coupe et teinture, réclame-t-elle. Ça lui coûte 9 € de plus que dans le salon où elle va d'habitude. Ça fait une éternité qu'elle n'a rien fait d'aussi spontané. « Ils n'ont qu'à me chercher un peu, tous les deux », se dit Inge. La coiffeuse applique la couleur à coups de pinceau très doux et agréable. Inge veille scrupuleusement à ne pas croiser les jambes, un ordre de la doctoresse. La doctoresse a dit aussi « C'est bien qu'on soit en été. Vous n'avez pas le droit non plus d'enfiler vos chaussettes toutes seules dans les prochaines semaines. Il ne faut pas que vous vous penchiez trop en avant. » Tandis que la couleur agit, Inge sent un courant d'air frais à la racine de ses cheveux. Comme elle se réjouit de rentrer chez elle, elle se réjouit de retrouver son propre lit avec sa tête capitonnée, un sommeil sans ronflement à côté, ni crapaud qui pétarade sous la fenêtre. Des repas qu'elle a préparés elle-même avec beaucoup de sel et son jardin. Inge garde bien en vue la porte du salon de coiffure et finit par voir, enfin, Kersten, Lisa et Lilo. Elle ne reconnaît pas tout de suite Lilo car celle-ci ne porte pas son habituelle casaque blanche, mais un chemisier sans manches. Le sac de voyage d'Inge est pendu à son épaule, mais Kersten le lui prend à ce moment-là. « Bonté divine !» Songe Inge, j'ai oublié mon sac à la cantine. Lilo ouvre avec fracas la porte du salon. La coiffeuse sursaute, met sa main aux ongles manucurés sur sa poitrine.
« C'est donc là que vous vous cachez ?» dit Lilo d'un ton sévère. « Vous avez voulu faire peur à votre famille ?»«
On dirait bien, » ajoute Kersten.
« Mais non, voyons, » répond Inge pour dédramatiser. Croisant les mains sous le tablier noir, elle s'irrite de ce que Lilo insinue, ou plutôt d'avoir été percée à jour. Il y a plusieurs bandes de papier d'aluminium dans les cheveux mouillés d'Inge.
« Tu as bonne mine, mamie. C'est drôle, » dit Lisa en montrant la tête de sa grand-mère. « Mais ce n'est pas bon pour la santé, le truc que tu te fais mettre sur les cheveux. »«
Mais si, voyons, » se récrie Inge. Leurs regards se rencontrent dans le miroir, elle se sourit. « Comme tu t'es allongée, tu vas bientôt dépasser ton père. »
« C'est déjà le cas, » dit Lisa en adressant un regard espiègle à Kersten.
Mais il ne réagit pas à cette remarque. Il baisse les yeux, se masse les tempes avec le bout des doigts. « Mais il ne faut plus que tu grandisses, » l'avertit Inge. « Sinon, tu ne trouveras pas d'homme plus grand que toi. »«
Monsieur, voyons, » s'amuse Lisa.
Sur ces entrefaites, Lilo dit au revoir et souhaite plein de bonnes choses à Inge. Kersten retire ses mains des tempes et s'adresse à la coiffeuse.
Il y en a pour combien de temps encore?
Oh, ça peut durer. Ma mère vient d'avoir 91 ans, dit la coiffeuse à voix basse.
Mais Inge a de bonnes oreilles, elle entend tout.
Je veux dire pour la coiffure, explique Kersten. Nous conclurons notre lecture sur ce grinçant quiproquo entre la coiffeuse et le fils Kersten. Dans cette comédie douce-amère, sont ainsi passées au crible les relations familiales et intergénérationnelles, mais aussi celles qui s'établissent dans le petit village. Par moments, presque une étude sociale. Nous vous rappelons les références de ce roman par Katia Schönherr, La famille Rook, traduit de l'allemand par Barbara Fontaine. Les lectures étaient assurées dans l'ordre par Monique, Patrick et Frédéric. La musique était de Vladimir Kosma, danse de Rabbi Jacob et fantaisie concertante. Le montage était réalisé par Claude Michel. Au revoir.
Chers auditeurs, Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez. Je suis ouvrière agricole.
Je suis paysagiste.
Je suis soigneuse dans un parc zoologique.
Je suis ouvrier forestier.
Nos conditions de vie et de travail sont dégradées.
Pourtant, en tant que salarié en agriculture,
nous faisons vivre un secteur essentiel pour la population.
Pour gagner des augmentations de salaire.
Pour améliorer mes conditions de travail.
Pour défendre mes droits et en gagner de nouveaux.
Jusqu'au 31 janvier,
aux élections Chambre d'agriculture, je vote CGT.
Salarié agricole.
Les élections Chambre d'agriculture, ça vous concerne.
L'évolution du monde agricole doit se faire avec ses salariés.
Jusqu'au 31 janvier, cultivons notre avenir.
Votez CFTC Agri.
Avec la CFTC Agri, vous allez changer d'avis sur le syndicalisme.
Alors jusqu'au 31 janvier, votez constructif.
Votez CFTC Agri.
Combien sommes-nous ? Combien sommes-nous ? Combien sommes-nous ?
Le visage inquiet, les membres tremblants, le ventre noué, le souffle haletant, les rideaux bras ouverts.